Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Allez, aujourd'hui, on quitte la terre ferme et on part faire un petit tour sur la Lune et dans la nuit. C'est parti avec le premier conte qui s'appelle « La ville dans la nuit ». Il était une fois une ville où régnait la nuit. Il y avait des nuits de pleine lune et des nuits remplies d'étoiles, et quand la nuit était trop noire, on allumait des lampes. Mais c'était toujours la nuit. Et puis, voilà qu'un voyageur arrive. Il raconte qu'il vient de loin et qu'ailleurs il y a des villes où après les heures de nuit viennent des heures de jour. Il raconte que le jour est si clair qu'on n'a même pas besoin de lampes. Les gens emmènent aussitôt le voyageur chez le maire. Ils veulent tous que l'on fasse venir le jour dans leur ville. Le maire se met à bougonner. « le jour, et voulez-vous que j'aille le chercher, moi, le jour? Et puis d'abord, combien ça coûte ?» Le voyageur répond « Mais le jour, ça ne s'achète pas. Le jour, il vient. » Le maire dit « Ah, et pourquoi donc n'est-il jamais venu chez nous ?» Le voyageur répond « Comment le jour viendrait-il si personne ne l'attend ?» Le maire et tous les habitants en restent la bouche ouverte. Ils n'avaient jamais pensé à ça. Et puis le maire dit « Attendre, attendre, mais comment fait-on pour attendre le jour ?» Le poète lève son doigt taché d'encre et il dit « Moi je sais, quand j'attends un vers, une rime, je m'assieds, je ferme les yeux et j'écoute dans ma tête. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme un poème. » Et puis la boulangère secoue son tablier plein de farine et elle dit « Moi je sais, quand mes pains sont au four et que j'attends qu'ils cuisent, je fronce le nez jusqu'à ce que je sente la bonne odeur du pain doré. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme du bon pain. » Et tous, le jardinier et le maçon, la couturière, le pêcheur et l'épicier, le peintre et la maîtresse d'école, tous s'aperçoivent qu'ils savent comment attendre le jour. Mais le maire bougonne encore. « Mais c'est bien joli tout ça, mais... » Ça prendra combien de temps d'attendre ? Alors les gens s'écrient « Mais on va commencer tout de suite !» Et le poète reste les yeux fermés à écouter dans sa tête si le jour arrive. Et la boulangère fronce son nez pour sentir si le jour arrive. Et tous, le jardinier et le maçon, la couturière, le pêcheur et l'épicier, le peintre et la maîtresse d'école, tous commencent à attendre le jour. Et bientôt, là-bas, au bord des toits, une minuscule ligne rose se met à grandir, grandir, et brusquement un éblouissant rayon d'or saute par-dessus les toits et il éclabousse la ville de lumière. Tout le monde crie en même temps oh, « C'est comme un feu d'artifice !» Mais c'est encore plus beau que le feu d'artifice. C'est le jour qui est venu. Alors, pendant tout le jour, la ville entière est en fête. Et puis, quand la nuit revient, le maire se racle la gorge et il dit « Bon, eh bien voilà, demain vous élirez un autre maire. Il faut que désormais sur notre ville, le jour revienne sans cesse après la nuit. Alors moi, maintenant, je serai veilleur de nuit et je passerai mes nuits à attendre le jour. » Et depuis ce temps-là, sur la ville, il y a des jours et des nuits. Parfois, le soir, la boulangère, le maçon, la couturière ou le jardinier vont faire un petit tour dans le noir. Et quand ils rencontrent le veilleur qui marche dans les rues avec sa lanterne, ils lui disent « Eh bien, veilleur, quelle nuit noire! On dirait qu'elle ne finira pas !» Et le veilleur répond avec un petit sourire « Oh, elle finira, mes amis, elle finira. Allez dormir, le jour vient, je l'attends. » Il est joli ce petit conte, mais moi la première chose à laquelle j'ai pensé après l'avoir lu, c'est la facture d'électricité quand même. Tout le monde habite dans une ville où il n'y a pas de jour, donc c'est tout le temps la nuit, et des fois, pour avoir un petit peu de lumière, on allume des lampes. Ah bah merci GEG quand même, hein. Mais bon, il n'y a pas que ça quand même dans cette histoire. Il y a aussi, et c'est ça qui est beau sans doute, cet ailleurs merveilleux. Souvent dans les contes, on trouve l'existence d'un ailleurs merveilleux, d'un autre endroit, d'un autre pays, d'un autre monde, d'une autre planète, je ne sais pas, qui a toujours l'air mieux que l'endroit où on est. Ici, on a un voyageur qui arrive au début de l'histoire et il raconte ce qu'il a vu ailleurs. D'ailleurs, le texte nous dit, un voyageur arrive, il raconte qu'il vient de loin et qu'ailleurs, il y a des villes où après les heures de nuit viennent des heures de jour. Ce voyageur qui se balade de compte en compte et de pays en pays pour raconter ce qu'il a vu ailleurs, on le rencontre très souvent. Mais aussi cette notion d'ailleurs un peu merveilleux, on le retrouve dans des contes classiques. Si vous prenez par exemple La Petite Sirène, écrit par Andersen, eh bien la petite sirène qui habite tout au fond de l'eau, elle pense tout le temps à la terre ferme et elle se dit que là-bas, ça doit être encore mieux que ce qu'elle est en train de vivre au fond de l'eau. La terre ferme, pour elle, c'est une source de fantasmes. Et si vous prenez, par exemple, Cendrillon, écrit par Perrault, c'est exactement pareil quand elle pense au bal qui aura lieu au château. Le bal, pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne vit pas, c'est dans un autre endroit et c'est forcément mieux que son quotidien. L'ailleurs est toujours tentant. Il fait rêver, il fait envie. Et dès que le voyageur parle de ce qu'il a vu ailleurs, les habitants de la ville veulent eux aussi l'arrivée du jour. Et ce qui est particulièrement beau dans ce conte, je trouve, c'est que les villageois, les habitants là, de cette ville, sans jour, eh bien, ils n'ont pas peur de l'inconnu. Ils n'ont pas peur du jour, même s'ils ne le connaissent pas, même s'ils ne savent pas ce que c'est, même s'ils ne l'ont jamais vécu. Il y a un réel enthousiasme. On ne connaît pas le jour, on ne sait pas ce que c'est, mais on veut bien tester le concept. Et l'enthousiasme est général. Dans la ville, ils veulent tous qu'on fasse venir le jour. Et puis il est immédiat. Dès qu'on décide qu'on va attendre le jour, tout le monde nous dit « Eh ben, on va commencer tout de suite !» La seule réticence, c'est qu'on ne sait pas comment faire venir le jour. Mais à part ça, la curiosité des habitants prend le dessus et devient le réel moteur de ce petit conte. Et puis bien sûr, au milieu de tous ces habitants très enthousiastes, il y a le personnage du maire. Et puis, c'est peut-être lui qui amène un tout petit bémol dans cette histoire. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas envie que le jour vienne, mais ce qui pose problème, c'est son côté pratique. Il a un côté très concret. Il va poser des questions très matérielles, très concrètes. Il va demander combien ça coûte de faire venir le jour. Il va demander comment on fait pour attendre le jour. Ça prendra combien de temps d'attendre? Où voulez-vous que j'aille le chercher le jour? Donc on a ce côté pratique dans le personnage du maire qui s'oppose à la rêverie, à l'imaginaire et à l'enthousiasme des personnages dans ce conte. Mais cependant, le personnage du maire n'est pas non plus un personnage négatif parce qu'il a une très très belle évolution tout au long de ce conte. De sa réticence initiale, eh bien, au final, il va dédier sa vie au retour du jour. C'est lui qui va trouver le juste équilibre entre la nuit et le jour. Et puis le reste de l'ensemble des personnages a quelque chose d'un petit peu archétypal, surtout dans les objets qui leur sont attribués. Le poète, par exemple, nous est désigné avec son doigt taché d'encre. Et puis la boulangère avec son tablier plein de farine. Mais tous, de leur manière, contribuent à l'univers mignon de ce conte. Puis il y a une vraie solidarité dans cette histoire aussi. C'est ça qui rend beau ces personnages. C'est un univers mignon. C'est un conte tout en douceur, à travers les personnages, à travers leur enthousiasme, dans le fait aussi que tout le monde soit d'accord. Mais aussi parce que c'est un conte qui finit bien. Et des fois, bah, ça fait du bien. C'est vrai qu'il y a une attente au cœur de ce conte. Il y a une impatience. On est impatient de voir le jour arriver, d'autant plus qu'on ne sait pas tout à fait ce que c'est, qu'on ne l'a jamais vécu. Donc, dans cette impatience, il y a aussi de l'espoir. Et heureusement, cette attente est comblée. Il n'y a pas de déception dans cette histoire. Le jour, quand il arrive, il est beau. Il est comparé à un rayon d'or. On nous dit qu'il éclabousse la ville de lumière, qu'il est encore plus beau qu'un feu d'artifice. Et puis aussi, bien sûr, eh bien, il donne un nouveau sens à la vie du maire. Ça fait du bien, parfois, les belles histoires. Et on continue avec un petit peu de beauté et un petit peu de douceur avec le morceau « Rainy Day Woman » de Kate Edmondson.
you string me along. My friends say it's wrong. They tell me I'm crazy. I'm reading the cards and asking the stars. The outlook is hazy. Whoa. Save me for a rainy day. I'm tired of the fight. I turn out my light. You know I'm not sleeping. I'm walking the line. I just need a sign. You call me up weeping. Whoa. Say yes, I can't say no, and that makes me crazy. You never say stay, I never can go away from you, baby. Whoa, oh, never mind the weather. Whoa, as long as we're together, you say.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Comment faire une émission sur le thème de la nuit sans parler de la lune ? Alors, je me rattrape avec un conte québécois qui s'appelle La Luneur. Je précise qu'il est québécois parce que vous allez rencontrer des tournures de phrases un petit peu spéciales. Ma grand-mère disait que l'histoire s'est passée dans le temps où c'est qu'il y avait encore des étoiles. Aujourd'hui, avec les lumières électriques trop nombreuses, avec la fumée d'usines trop ombreuses, on est aveuglé. Ma grand-mère disait qu'avec l'avancement, on a fait disparaître les étoiles. Depuis un certain temps, parmi les responsabilités municipales qu'on refilait à Dièse, il y avait celle d'allumer les lumières de rue. Comme on n'avait pas le courant électrique, on s'était patenté à un système palliatif. Depuis des années, Dièse passait par les rues pour allumer un par un les réverbères à l'huile. Entre chien et loup, tous les soirs, Dièse parcourait le village. On l'entendait venir en sifflotant des airs semblables à des berceuses. C'est lui qui installait le soir sur mon village, tout doucement, en transmettant la flamèche aux lanternes. Un soir, après une veillée de la Saint-Jean qui soulignait l'arrivée des beaux jours de juin, les gens du village revenaient de fêter. Les fêteux marchaient, bras dessus, bras dessous, entonnant des bribes de chansons de la vieille France sur le rythme de leurs pas. Passant près du lac, Tigeant cria « La lune est tombée dans le lac !» Les yeux se tournèrent. Au beau milieu du lac, tellement calme qu'il avait l'air d'un miroir, la lune flottait. Dans l'euphorie, personne ne pensant à lever la tête vers le ciel, tout le monde croyait que l'image reflétée de la lumière était la lune elle-même tombée du ciel. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rescaper la lune. Il faut vider le lac, lança Tigean, incapable de se retenir d'avoir des idées lumineuses. Une fois à sec, on ira chercher la lune qui va rouler dans le trou. Va chercher ton cheval. Bonne idée. Les talons étaient assez costauds pour boire une bonne partie de l'eau du lac. Chose dite, chose faite. L'homme fort revenait déjà avec son cheval. Placé sur le bord du lac, la bête lapait, lapait, lapait. Ça marche, l'eau baisse un peu. Puis, pendant que le cheval buvait, les refrains reprenaient. À un moment donné, un nuage passa devant la lune. Comme une main devant la lampe, l'ombre glissa puis cacha la lueur complètement. Tigean cria encore.
« Les gars, la lune, elle est plus là !»«
Mais où c'est qu'elle est partie ?»«
Ça doit être le cheval qui l'a bu !»
Vitement, les hommes attrapèrent les talons. On dézippa la bête du haut en bas, on lui fouilla les entrailles et l'estomac. Pas de lune.
« On l'a perdue ?»
Et juste au moment où on remettait le cheval sur pied, le nuage s'était enlevé et Tigean se reprit.
« La lune, elle est replongée dans le lac !»«
Mais qu'est-ce qu'on fait ?»« Mais on va la repêcher !»
Alors, on improvisa une ligne à pêche géante. Dans un swing de lasso lancé à l'eau, l'hameçon s'accrocha dans les branchailles du fond du lac.
« Je l'ai ! Il reste plus rien qu'à tirer au bord !»
D'abord, l'homme fort s'installa seul au bout de la ligne. Dans un haut hisse magistral, il souqua à s'en faire péter les veines du cou. Mais rien ne bougeait.
« On va s'y prendre à plusieurs. Ça bouge. Forcez encore un peu. » Et paf !
La corde cassa d'un coup. Dans un sans dessus dessous, tous les sous-queues furent projetés sur le dos, empilés en chamaille. Étendus de leur long, les premiers à ouvrir les yeux virent le ciel.
« La lune ! On l'a eue ! On l'a remise à sa place !»
Pendant que les gars se relevaient, heureux de leur coup, Dièse murmura quelques notes. Voyant le fou venir vers eux, les fêtards firent un lien avec le maléfice lunaire. Dans leurs yeux luisaient des soupçons pesants. C'est de sa faute ? Dièse ne sut jamais ce qui s'était passé. En le voyant, tout le monde avait fui en courant. Le lendemain, puis les surlendemains, personne ne parlait plus à Dièse. Par peur d'un homme capable de décrocher la lune, tout le monde n'osait plus s'approcher du fou du village. On savait trop qu'il était capable de tout. À la réunion municipale de juillet, quand le vendeur d'énergie électrique passa avec ses fils au village, tout le monde vota pour être mis au courant. Ils plantèrent des lampadaires électriques partout et Dièse perdit son travail. Depuis ce temps-là, on a des lampadaires qui éclairent fort, froid, dur. Des réverbères qui ne sont pas tamisés. C'est rendu que la nuit, il y a trop de lumière pour qu'on puisse voir la lune puis les étoiles. Ma grand-mère, elle disait que les yeux des enfants brillent beaucoup moins. C'est rendu qu'il faut leur raconter des histoires pour allumer l'étincelle d'antan. C'est une belle rêverie d'un soir d'été, cette histoire. C'est un joli conte comme une parenthèse poétique. Et puis, Dièse, ce personnage qui, chaque soir, allume les lampadaires, eh ben, c'est un peu comme un marchand de sable des temps modernes. Et puis en face de Dièse, il y a bien sûr les fêtards, des espèces de doux rêveurs qui se persuadent que la lune est tombée dans l'eau et qu'en plus, ils sont assez forts pour croire qu'ils peuvent la remettre dans le ciel. Oui, c'est vraiment une belle rêverie. Et puis, c'est marrant parce qu'en fait, dans cette histoire, il suffirait de lever la tête pour que tous les fêtards puissent sortir de leur rêverie pour voir que la lune est encore accrochée au ciel, mais en fait, ils préfèrent remuer ciel et terre, presque littéralement, plutôt que d'admettre que la lune dans l'eau n'est qu'un reflet, comme s'ils ne voulaient pas sortir de leur rêverie. Mais malgré la douceur de cette rêverie, y a un tout petit peu de peur et de mystère qui s'infiltre dans cette histoire. À la fin du conte, quand Dièse revient en chantant, on parle de maléfice lunaire. Je cite le texte. Pendant que les gars se relevaient, Dièse murmura quelques notes. Voyant le fou s'en venir vers eux, les fêtards firent un lien avec le maléfice lunaire. Soudain, cette lune dans l'eau, c'est pas si joli, c'est pas si rassurant, c'est un tout petit peu trop mystique et un tout petit peu angoissant. Et puis, moi, cette histoire, ça m'a fait penser à l'expression « décrocher la lune ». Pour nous, c'est une expression pleine d'enthousiasme. Ça montre de la force, de la passion, de l'élan. Sauf que dans cette histoire, eh ben, c'est pas tout à fait ça. C'est joli, mais ça fait un tout petit peu peur aussi. Et puis dans ce conte, il y a aussi un autre paradoxe. Bien sûr, c'est que dans cette histoire, la lumière empêche le rêve. Et on nous le dit d'emblée en introduction, il y a une opposition entre la tradition, avec la lumière des étoiles, la pénombre qui permet le rêve, l'éclairage avec les réverbères tamisés, à l'huile. Et puis en face de ça, il y a la modernité, les lumières électriques. Et je cite le texte, « Ma grand-mère disait qu'avec l'avancement, on a fait disparaître les étoiles. Comme si le progrès technologique nous empêchait un petit peu de rêver, finalement. » Et puis après tout, c'est peut-être qu'un conte un petit peu nostalgique et pas si triste. C'est pas un conte qui nie ou dénigre l'avancement, la progression technologique. C'est juste peut-être juste, je sais pas, quelque chose qui manque, un souvenir du passé avec le fameux « c'était mieux avant ». Il n'en reste pas moins que c'est quand même une petite rêverie qui fait du bien. C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.